Le grand plaisir, voilà, si vous pouviez un tout petit peu faire silence. Voilà, merci. Bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'ouvrir et d'introduire brièvement, je vous rassure, ce 13e colloque de notre société de thérapie familiale psychanalytique. J'ai aussi le plaisir de succéder comme présidente pour 3 ans à Elisabeth Darchy, qui est donc notre ancienne présidente. Nous avons aussi un moment fort à partager puisque nous allons ensemble travailler pendant 2 jours en hommage à Rufio, qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et nous sommes ici assez contents de voir que le travail de transmission fonctionne, puisque beaucoup d'entre nous ne l'ont pas connu directement, mais l'ont connu à travers ses ouvrages. Et nous espérons que tout ce qu'il a transmis, je ne m'étends pas plus, parce que des collègues bien plus informés que moi le feront merveilleusement tout à l'heure, mais que ce que nous souhaiterions, c'est que cette transmission puisse être aussi transformée par les thérapeutes familiaux que vous êtes ou ceux que vous deviendrez. Alors, concrètement, il y a des petits temps importants. La première chose, c'est que vous puissiez éteindre votre portable. Ça, c'est important pour tout le monde. Une autre chose, c'est que vous puissiez inscrire votre nom pour participer aux ateliers cet après-midi. Le numéro des salles des ateliers sera communiqué pendant la pause, en tout cas avant 12h30, de telle sorte que nous puissions répartir les salles en fonction du nombre d'inscrits, tout simplement, et ce sera fléché. Les inscriptions ont lieu sur des grandes feuilles de paperboard qui sont accrochées à l'entrée. Il y a une grande surprise, enfin une surprise agréable en tout cas, je ne sais pas si elle est grande, c'est que les éditions InPress, à l'occasion de la sortie du livre « La violence dans la famille et dans le couple », qui est sous la direction de Alberto Egger et d'Anna Maria Nicolo, nous offre à la fois un pot pour aussi souligner tout le travail qui a été fait par beaucoup d'entre nous, par certains de nos collègues précisément, sur la création du divan familial, qui est un ouvrage, une revue, qui est maintenant très porteuse. Et c'est pour nous remercier de ce travail de collaboration que cette festivité, donc à 12h30, nous sera offerte par InPress. Mais par ailleurs, à l'occasion, je fais un peu de pub, mais ça peut être intéressant, c'est qu'à l'occasion de l'achat de ce livre, eh bien, les éditions InPress, pour l'achat de ce livre, vous offrira un numéro de la revue du divan. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose que nous pouvons partager. Eh bien, bonne matinée et surtout bon colloque. Et je vous retrouverai à la fin dimanche midi.
Bien, je vous remercie beaucoup d'être nombreux ici. Je suis très honoré d'avoir été invité par vous à présider cette matinée. Et je la prends comme un honneur pas seulement personnel. Je pense aussi que ça signifie quelque chose de la profondeur de nos accords, en général, théoriques, entre votre organisme de formation et PSIFA, que j'ai donc... qui a fêté ses 30 ans l'année dernière, et de nos collaborations habituelles qui fait que nous connaissons depuis tout de même déjà bien longtemps. C'est aussi pour moi une des raisons pour lesquelles je suis là, c'est aussi en l'honneur de Rufio, André Rufio, que nous avons bien connu, Evelyne, mon épouse et moi, puisque nous avons été tout à fait au début dans une première réflexion sur les interventions auprès de la problématique des couples à problème, comment définir ces situations, comment imaginer des modes d'intervention et également comment former des travailleurs divers qui n'étaient pas tous des psys, déjà psys, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de psys, et les quelques psys véritables étaient une poignée de psychanalystes qui travaillaient sur leur divan auprès de patients très particuliers, et nous avions, nous, le projet d'étendre ce type de compréhension à une problématique nouvelle. Et là, je me rappelle très bien des moments précis dans nos rencontres avec André Ruffio et sa première épouse. Et c'est donc en son souvenir que je suis heureux d'ouvrir en quelque sorte notre travail d'aujourd'hui. Alors, il y a aussi une autre raison, c'est que je suis très heureux que vous ayez mis dans votre programme une intervention, justement, qui soit d'une nature un peu différente, avec laquelle il est très important aujourd'hui que nous entretenions des relations de compréhension. Et la neurobiologie, qui était mon premier centre d'intérêt quand je me suis orienté vers la médecine, soit aujourd'hui représentée par un neurobiologiste, un chercheur connu qui travaille à l'INSERM, et qui va en quelque sorte nous apporter peut-être un éclairage autour du thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est celui de l'utilisation du rêve. Et c'est un auteur qui s'est peut-être davantage fait connaître à propos de la problématique des addictions, mais qui, naturellement, est intéressé par la problématique du rêve. Et nous aurons ensuite donc un débat avec Serge Tisseron, que ce n'est pas la peine que je vous présente ici, bien entendu, et nous espérons tirer quelque chose de ce débat. Juste un mot pour dire que si je n'ai pas, moi, personnellement, beaucoup travaillé sur le rêve, il faut considérer que la question de l'utilisation du rêve est une question un peu plus méthodologique et que, méthodologiquement, j'avais peut-être préféré d'autres types d'approches que celle de l'utilisation du rêve par les participants familiaux, mais ce n'est pas du tout un désaccord théorique, d'abord... ça m'arrive d'intervenir à ce niveau-là aussi. Et c'est une question de développer en quelque sorte différentes approches méthodologiques pour travailler avec les couples et avec les familles. Voilà. Alors, j'introduis la chose comme ça pour dire à la fois nos différences et ce que nous espérons d'une collaboration et d'une réflexion approfondie sur les différents problèmes posés par le rêve. Voilà. Je crois que maintenant... Il n'y a plus qu'à donner la parole à monsieur.
Bonjour, merci pour cette invitation. Je dois prévenir les deux personnes qui sont à la table qu'elles risquent de prendre des rayons lumineux dans les yeux, pas tout de suite, mais bientôt, parce que je vais être obligé, pour des raisons techniques, et puis parce que c'est plus simple entre nous, de vous présenter un PowerPoint, de vous présenter des images. Vous verrez, c'est plus simple, et même avec les images, ça ne va pas être simple, parce que je vous remercie non seulement de l'invitation, mais aussi je vous félicite de l'effort que vous allez faire, parce que vous allez vous prendre de la neurobiologie pendant plusieurs dizaines de minutes, et que je crois savoir que vous n'êtes pas tous neurobiologistes dans la salle. Donc bravo. Alors, l'idée, c'est le rêve, bien sûr. Nous allons parler du rêve. Nous allons parler du rêve en neurobiologie. Et je pense que vous avez déjà des idées sur le rêve, et même sur le rêve en neurobiologie. Je pense que les travaux de Michel Jouvet dans les années 60-70 ont été suffisamment brillants et suffisamment importants pour que tout le monde se souvienne qu'il y a dans le sommeil un certain nombre de phases. Phase de sommeil lent, c'est l'endormissement. Et puis au fur et à mesure qu'on s'endort, il y a... j'ai oublié de dire que le rêve avait vraisemblablement lieu pendant le sommeil. Et nous allons voir que ce n'est pas si évident que ça. Mais vraisemblablement. Donc parlons du sommeil. Le sommeil lent qui va apparaître dans les premières minutes, les premières dizaines de minutes. Le sommeil lent qui diminue avec des stades différents. Et puis l'arrivée d'une partie assez exceptionnelle, donc mise en évidence entre autres par Michel Jouvet, le sommeil paradoxal. Alors, le sommeil paradoxal, c'est une situation pendant laquelle le dormeur est paralysé. Et il a juste des yeux qui tournent. Donc il a ce qu'on appelle rapid eye movements, REM. Ses yeux bougent, essai d'un sommeil paradoxal pendant lequel le muscle ne fonctionne plus, sauf ceux des yeux, et le système neurovégétatif est modifié, c'est-à-dire qu'il y a des modifications d'accélération, de rythme cardiaque, et aussi des modifications de transpiration. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent. Et puis, comme il y avait ces mouvements des yeux, et comme le sommeil était paradoxal, pourquoi paradoxal ? Parce que quand on enregistre le sommeil pendant cette période, eh bien, on a l'impression qu'il s'agit d'une situation d'éveil, c'est-à-dire que les ondes qui sont émises par le cerveau pendant cette période de sommeil paradoxal ressemblent à s'y méprendre à celles qui sont émises lorsqu'il y a éveil. Avec le sommeil lent, il n'y a pas de problème, mais avec le sommeil paradoxal et l'éveil, c'est à peu près identique. Donc le sommeil paradoxal, sa seule caractéristique au niveau physiologique, quand on essaye d'enregistrer, c'est cette paralysie qui apparaît. Et donc, très astucieusement, Michel Jouvet a proposé, et a été extrêmement entendu, a proposé que le rêve ait lieu pendant le sommeil paradoxal. La preuve, il y a des mouvements des yeux. La preuve, le rêveur est en train de vivre quelque chose puisqu'il fait bouger ses yeux. Et puis il avait un certain nombre d'autres arguments, et le premier argument qu'il avait, qui était le plus spectaculaire, c'est que lorsqu'il réveillait le dormeur pendant la phase de sommeil paradoxal, bien dans 70% des cas, le patient racontait un rêve. Donc, en réveillant le patient, il avait interrompu un rêve. OK ? Et puis sa seconde expérience, qui est un peu plus technique, c'est qu'il a pris des chats et il a repéré qu'il y avait des zones dans le cerveau qui permettaient la paralysie pendant le sommeil paradoxal, qui induisaient la paralysie. Il a détruit ces zones du cerveau très petites, et donc le chat, lorsqu'il arrivait en sommeil paradoxal, n'était plus paralysé. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, le chat courait, les yeux fermés, dans la salle, au moment où le sommeil paradoxal apparaissait. Il courait, il donnait l'impression de vouloir attraper une souris, rentrer dans les murs, mais peu importe. Donc, le chat rêvait. C'était la seconde preuve que, en fait, le rêve avait lieu pendant le sommeil paradoxal. Et donc, ces deux éléments ont été extrêmement forts. Ce que l'on a oublié de dire, c'est que quelques mois après l'annonce de cette découverte du lien entre le sommeil paradoxal et le rêve, d'autres chercheurs ont réveillé des patients qui n'étaient plus en sommeil paradoxal, mais qui étaient en sommeil lent. Or, ces patients ont aussi raconté des rêves. Alors, bien sûr, les rêves n'étaient pas exactement du même ordre. Ils étaient un peu moins oniriques, mais il y avait un rêve. Donc, il semblait qu'il y avait aussi du rêve pendant le sommeil lent. Donc, mais ça a été oublié parce que la relation était si forte entre sommeil paradoxal et rêve qu'on a préféré garder cette idée de la relation entre le rêve et le sommeil paradoxal. Et puis, il y a eu un certain nombre d'autres problèmes qui sont posés. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que ce que je vais essayer de vous montrer, moi, avant d'aller directement dans ces problèmes du rêve, et je vais essayer de vous donner quelques éléments, vous m'excuserez, de neurobiologie pour qu'on puisse voir en quoi il y a un problème avec ce lien entre sommeil paradoxal et rêve, que c'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on le pensait. Alors, et monsieur le maire est obligé de se déplacer, excusez-moi. Sauf si vous voulez avoir dans les yeux ce rayon extrêmement fort. Donc cette première diapositive, c'est juste pour nous rappeler à tous, au cas où il y aurait... Vous voulez pas vous asseoir parce que c'est quand même... Oui, mais là-bas, il ne verra rien, mais c'est pas grave, c'est comme il veut. Bon. Donc cette première diapositive, c'est juste pour nous rappeler qu'il y a 100 milliards de neurones dans le système nerveux central. C'est extrêmement complexe. Là, vous avez un neurone. Ici, vous avez des dendrites, c'est-à-dire des racines qui reçoivent l'information. Et puis, vous voyez des terminaisons qui viennent de différents neurones. Et chaque neurone reçoit environ 1000 à 10 000 contacts. Il y a 100 milliards de neurones, 1000 à 10 000 contacts. Et comment se fait le contact ? Comment se fait la transmission d'un neurone à l'autre ? Eh bien, cette transmission, elle se fait par l'intermédiaire de la libération de molécules qui ont des noms que certains connaissent, acétylcholine, GABA, glycine, noradrénaline, dopamine, sérotonine, etc. Il y a une centaine de neuromédiateurs qui sont synthétisés et libérés par ces 100 milliards de neurones. Et c'est comme ça, a priori, que le système nerveux central fonctionne. Alors, une chance pour les neurobiologistes, tous les neurones ne sont pas identiques. Tous les neurones ne sont pas identiques. Et en fait, il y a deux grands groupes de neurones, deux grands groupes de cellules nerveuses. Un premier grand groupe qui est constitué de deux molécules qu'on appelle GABA et acide glutamique, qui sont les molécules qui représentent l'essentiel du système nerveux central. C'est 99%. C'est un modèle qu'on appelle téléphonique, c'est-à-dire que c'est un peu le système du téléphone portable. Chacun peut communiquer avec tout le monde. Ce sont des réseaux. Et donc, c'est un modèle qu'on appelle point à point. Et c'est donc ce sont des réseaux. C'est ça l'essentiel. Le traitement du message se fait par l'intermédiaire de ces réseaux. Et puis, il y a un autre groupe, très minoritaire, j'ai mis 1%, mais c'est moins de 1%, qui est constitué par trois types de neuromédiateurs, donc trois molécules qui sont libérées, synthétisées et libérées par les neurones, qu'on appelle sérotonine, 5-hydroxytryptamine, noradrénaline, dopamine. Trois types de systèmes qui sont des modulateurs et qui ne fonctionnent pas de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ne transmettent pas une information comme les autres, ils modulent l'information, ils la rendent importante ou moins importante. Ils font que certaines structures dans le cerveau sont activées à certains moments et pas d'autres. Et ce système qu'on appelle radiophonique, et c'est diffus, c'est-à-dire que les corps cellulaires, comme vous avez vu tout à l'heure, ce corps cellulaire est très profond dans le cerveau, et les axones vont vers l'avant de façon très divergente. On appelle ça des modulateurs. Ces modulateurs donc décident des zones cérébrales importantes à l'occasion d'une situation donnée. Et évidemment que les modulateurs sont en lien avec les réseaux. Ils vont décider des zones importantes en fonction des informations qui sont rentrées et qui sont traitées par les réseaux. Donc nous avons ces deux grands groupes. Et si je vous parle de ces deux grands groupes, c'est parce que justement, au moment de l'endormissement, il se passe des choses. Il se passe des choses non pas avec ces systèmes-là, qui représentent le traitement du signal, mais avec ceux-là, les systèmes modulateurs. Et en l'occurrence, les systèmes modulateurs diminuent leur activité de façon régulière au moment de l'endormissement pour s'arrêter pratiquement complètement pendant le sommeil paradoxal. Ce qui veut dire que pendant le sommeil paradoxal, il n'y a plus pratiquement de modulation, il n'y a plus que l'activité en tant que telle. Le cerveau continue effectivement à fonctionner, mais il fonctionne sous un mode qui risque d'être légèrement différent. Et c'est ça ce qu'on va voir. Et donc je vous propose en fait une hypothèse qui s'avère de plus en plus intéressante, parce que ça a l'air de pas trop mal marcher, si je puis dire. C'est qu'il existe dans le système nerveux central, dans le cerveau, deux modes qui sont en interaction et qui, au moment de l'éveil, sont en oscillation l'un avec l'autre. Un premier, qu'on appelle analogique, qui est un traitement extrêmement rapide. Un traitement rapide, ça veut dire quelques centaines de millisecondes. Et c'est un système, un traitement auquel on n'a pas accès. Ça va tellement vite qu'on n'a pas accès, puisqu'on arrive à traiter une image toutes les 100 millisecondes. Ça veut dire qu'on a 10 images par seconde qui vont être traitées. Elles vont tellement vite que nous n'en avons pas conscience. Nous ne pouvons pas en avoir conscience. Notre conscience, elle va nécessiter un autre traitement, qui est un traitement qu'on appelle cognitif, et qui fait intervenir deux choses. La première, c'est une structure, le cortex préfrontal. C'est une zone donc qui est très en avant du cerveau, une structure qui va permettre justement de ralentir le traitement, et les modulateurs. Et ces modulateurs, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces modulateurs, eh bien, ils dépendent des conditions affectives, c'est-à-dire à la fois du stress, qui va modifier l'activité des modulateurs, mais aussi de la motivation. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas non plus d'activation des modulateurs. Donc on a deux traitements, un rapide analogique et un plus lent cognitif. Et ces deux traitements vont nous permettre de raisonner, entre autres, par rapport au rêve, parce que ce que je vais vous proposer, c'est que ce que fait le rêve, c'est qu'il fait passer le traitement analogique rapide qui a lieu pendant le sommeil à un traitement plus lent qui est dû à l'activation des modulateurs. En résumé, ce que je vais vous proposer, c'est que le rêve est le résultat du ralentissement du traitement rapide. C'est le résultat d'un ralentissement du traitement rapide à l'occasion des neuromodulateurs. Il y en a beaucoup qui n'ont rien compris à tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'était l'introduction. Donc maintenant, je vais aller un peu plus dans le détail. et à partir de cette idée qu'il y a dans la fabrication du rêve quelque chose qui n'arrive pas normalement, en principe, à l'état d'éveil, mais qui n'est pas dû uniquement à l'état de sommeil. Alors, c'est le dernier, disons la dernière partie un petit peu technique, c'est que pour vous montrer à quoi correspond ce lien entre le système analogique, le traitement rapide analogique et le traitement cognitif, eh bien, je vous montre ici des entrées sensorielles. Donc ici, c'est une première structure qu'on appelle le thalamus. Là, donc, c'est des entrées sensorielles, c'est visuel, auditif, somatosensoriel, le toucher. Et ces informations vont dans des zones corticales, vers différentes zones corticales spécialisées, visuelles, auditives et somatosensorielles. Elles sont associées. Simultanément, les modulateurs sont activés. Les modulateurs sont activés, c'est-à-dire qu'ils prennent le message et ils vont donner à ce message un sens. Un sens qui va arriver, si vous voulez, qui va converger entre les entrées, les perceptions et la modulation, eh bien, qui va converger au niveau du cortex. Et en fonction du sens de ce message, eh bien, un troisième modulateur, qu'on appelle la dopamine, donc, va décider des structures qu'il faut activer de façon à ce que la sortie comportementale, notre réponse comportementale, soit adaptée au sens des entrées sensorielles. Alors, ça peut être moteur, ces sorties comportementales. Elles peuvent aussi, bien sûr, être psychiques. C'est-à-dire que la sortie peut être, si elle est psychique, on ne la voit pas, mais elle est psychique. Et sur le plan neuronal, elle est absolument identique à ce qu'on voit avec le système moteur. Donc cette dopamine va être indispensable pour qu'on ait une sortie motrice ou psychique en adéquation avec le sens des entrées sensorielles. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que précisément, et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est qu'au moment de l'endormissement, ces systèmes modulateurs diminuent leur activité. Ils sont extrêmement fragiles sur le plan de l'énergie et sur le plan du repos. Ils ne peuvent pas ne pas s'arrêter. On ne peut pas passer plusieurs jours sans dormir sans qu'il y ait des conséquences psychiques importantes. Et au moment de l'endormissement, eh bien, ces activités noradrénergiques, noradrénaline et sérotonine, diminuent régulièrement. Et au moment du sommeil paradoxal, ces neurones s'arrêtent. Ils ne peuvent pas s'arrêter longtemps. Ils vont s'arrêter pendant un temps restreint. Chez l'homme, ça va être de l'ordre de quelques dizaines de minutes, 20 minutes en général. Et puis, ils vont repartir. On va refaire un nouveau cycle de sommeil lent. Et ils vont de nouveau se diminuer et repartir vers une activité qui va être nulle. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, lorsque ces modulateurs s'arrêtent, c'est-à-dire que lorsque nous sommes rentrés dans la phase d'endormissement lent puis paradoxal, eh bien, le traitement qui reste, c'est le traitement analogique, c'est le traitement rapide auquel on n'a pas accès. Ce qui veut dire que pendant le sommeil paradoxal, et éventuellement même pendant le sommeil lent, on a perdu absolument tout accès à la conscience. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si on a perdu accès à la conscience, comment fait-on pour rêver? Puisque pour rêver, vous avez malgré tout besoin de passer par un état de conscience. Pour le raconter, il faut qu'il y ait eu un moment de traitement conscient. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc il faut essayer de comprendre ça et de démêler cette histoire. Donc allons-y pour le traitement analogique, rapidement, pour que tout le monde soit d'accord sur le principe. Donc ça, c'est on imagine un cerveau avec des cellules qui sont les petites cases noires. Donc les cellules noires sont des cellules arrêtées et les cases blanches sont des cellules activées. Donc là, en principe, tout le monde voit un bateau, sinon les autres peuvent sortir. Mais là normalement, vous avez un bateau, mais ça, c'est. Il faut imaginer aussi que toutes les cellules sont en relation les unes avec les autres. Alors, en fait, ça, c'est la théorie. Mais pratiquement, le système nerveux central, évidemment, il fait des tas d'erreurs, des petites erreurs. Donc ça ne devrait pas être allumé, ça non plus. Et puis ici, ça devrait être allumé, c'est éteint. Ça, c'est une situation qui est banale. Mais ça va un peu plus loin. C'est qu'en fait, il y a un certain nombre de situations. Dans la majeure partie des situations, le système nerveux central fonctionne de façon analogique, c'est-à-dire qu'il fait des tas de petites erreurs. Et là, on est en face d'une situation un peu difficile, c'est que c'est toujours un bateau, mais ça pourrait être un char d'assaut. On est un peu sur une marge, il y a quelque chose, il y a une crête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'on le fabrique, et dès la naissance, et peut-être même avant, mais en tout cas dès la naissance et ensuite, on fabrique ce qu'on appelle des bassins attracteurs. C'est-à-dire que ce sont des zones pour lesquels un certain nombre de paramètres vont avoir une signification. Donc ça, je reçois une information I1, et cette information I1 signifie B, parce que je tombe dans le bassin attracteur. Au même titre, I2 va signifier C, I3 va signifier D, I4 va aussi signifier D. Alors ce qu'on voit là-dessus, c'est que deux informations très voisines, I3 et I2, qui ont des caractéristiques très voisines, vont l'une donner comme sens C et l'autre donner D. Et que deux informations qui paraissent éloignées, I3 et I4, vont malgré tout donner le même type de signification. Et ça, c'est la caractéristique du système analogique du fonctionnement du système nerveux central, c'est-à-dire que nous repérons quelques éléments saillants, et à partir de ces éléments saillants, nous fabriquons un objet, nous fabriquons une histoire, nous fabriquons un sujet éventuellement. Alors on peut imaginer des tas de choses. Ici, vous pourriez imaginer qu'ici, il y a une fée et ici, il y a une sorcière. Il y a des tas d'éléments communs entre la fée et la sorcière, les femmes, le balai, la baguette de fée, etc., le chapeau, il y a la couleur qui est différente. Et les petites différences font que d'un côté, on va vers la sorcière et de l'autre côté, on va vers la fée. Et au départ, on est soumis tous à ce type de situation où il va falloir faire des choix de bassin attracteur et que ce n'est pas forcément évident et qu'il peut y avoir des erreurs. On reviendra là-dessus sans doute. Toujours est-il que ça, c'est le traitement analogique. Alors, encore un mot d'un autre exemple, c'est la reconnaissance des visages. Nous apprenons de façon inconsciente à repérer quelques éléments saillants dans les visages qui nous entourent, les yeux, le nez, ça suffit. Si avec deux yeux et un nez, on sait reconnaître qui il est. Mais si on nous montre deux visages différents qui ont les mêmes yeux et le même nez, nous faisons une confusion de bassin, c'est que nous prenons pendant un temps relativement court, vous confondez les deux visages et il va falloir d'autres informations plus sophistiquées sur les oreilles et les cheveux pour être capable de séparer ces deux bassins et pour être capable de dire non, ce ne sont pas les mêmes personnes, elles ont les mêmes yeux et les mêmes nez, mais elles sont différentes. Et à ce moment-là, on évite cette confusion de bassin. Donc on est dans... Et évidemment que notre système nerveux central fait des tas d'erreurs de façon répétée que nous corrigeons plus ou moins facilement en fonction aussi de notre histoire. Donc ça, c'est pour juste schématiser ces bassins attracteurs. Donc on a ici des entrées, des informations qui peuvent être affectives, qui sont perceptives, qui sont des perceptions, des bruits, des odeurs, différentes choses, qui éventuellement donc affectives et qui vont donner lieu à une signification. Alors, je vous montre un premier exemple qui est assez simple pour que vous puissiez avoir accès à ce traitement analogique. Je pense que beaucoup le connaissent. Vous voyez que la plupart d'entre vous ont pu lire ce texte sans aucune difficulté, bien qu'il n'y ait aucun mot qui soit écrit correctement. Donc, à partir de quelques éléments, ici, eh bien ça, c'est première. Parce que votre bassin attracteur que vous avez fabriqué au cours de votre développement est tel que ça ne peut être que première. Il y a un P au départ, il y a un E à la fin, il y a R, bon, c'est première. Et selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. Ça ne me pose aucun problème de le lire et je vous assure que je ne l'ai pas appris par cœur. Voilà, donc vous, c'est pareil. Alors je vous propose un autre petit jeu que j'aime beaucoup faire, c'est mon petit plaisir. Je vais vous présenter une image qui va passer très vite et je vais vous demander de me répondre rapidement ce que vous voyez. Alors, je signale deux choses toujours, c'est que d'une part, ça n'est pas sexuel, donc il n'y a aucun problème. Et l'autre chose, c'est que ce n'est pas non plus un test d'intelligence. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter ça et puis vous allez, si vous avez le courage, si je puis dire, enfin c'est pas vraiment le courage, vous me répondez, vous me dites ce que vous avez vu. Alors vous êtes prêts, c'est au centre de... Qu'est-ce que vous avez vu ? Une grenouille, oui. Du verre. Pardon ? Une bouche et un ? Une bouche à incendie, oui. Rien ? Un personnage de BD. Une grenouille sur la plage, voilà. Pardon ? Un quoi, hein ? Un phare sur la neige, sur la mer, pardon. Donc, je reviens des sports d'hiver, excusez-moi. Donc, en fait, je vais vous montrer ce que c'est, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu des choses différentes. Vous avez donc chacun des bassins un peu différents. Alors, je peux vous dire, 60%, effectivement, c'est ce que j'ai un peu entendu, reviennent et voient ça, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des coquillages. La réponse, la bonne réponse, c'est les coquillages. Mais la grenouille, pourquoi la grenouille, c'est 60%. La grenouille, c'est à cause de la bouche. Alors, il y a aussi, en principe, à cause ici, je ne sais pas, normalement, comme il y a beaucoup de... C'est surtout les femmes qui voient ça, mais je ne l'ai pas entendu, mais je n'ai pas cherché trop longtemps parce que je n'ai pas trop de temps. Ici, c'est des yeux, évidemment. Ça représente les yeux de la grenouille, théoriquement. En fait, il y a des gens qui voient un petit chat. C'est arrivé souvent, parce que ça pourrait être les yeux. Mais ce qui est important, et puis ici, vous avez quelque chose qui est assez vague, donc c'est un phare sur la mer. Ou alors, c'est une bouche à incendie. Voilà, bon, et puis il y a d'autres choses. Mais ce qui est important à voir, c'est que avec ces quelques dizaines, centaines de millisecondes, eh bien, vous avez vu quelque chose, et vous avez fabriqué quelque chose. Alors, certains, la plupart, n'ont pas osé dire ce qu'ils avaient vu, mais... Vous avez tous vu quelque chose et vous l'avez fabriqué à partir d'éléments qui sont évidemment appris, puisque cette grenouille, qui n'existe pas et qui sont des coquillages, cette grenouille, elle a certains éléments qui sont en particulier cette bouche qui va entraîner la réponse. C'est exprès. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, si je vous le montre comme ça, là, en principe, tout le monde voit que ce sont des coquillages. En principe. Peut-être pas ceux du fond, d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que vous voyez au fond. Toujours est-il que le mécanisme, et maintenant on arrive à la... Non, vous avez le droit de parler. Allez, alors, non. Le mécanisme de fond, c'est qu'ici, il y a des situations de privilège de communication, si vous voulez. Ce sont des situations de renforcement de communication où lorsque le système nerveux central voit deux objets simultanément et de façon répétée, eh bien, il va activer un certain nombre de neurones. Et puis... Les synapses, ici, vont se renforcer. Lorsque les deux objets auront disparu, les synapses vont se renforcer. Et il va y avoir, finalement, à l'occasion de l'activation d'une seule synapse, activation de l'autre. Donc, quelques éléments d'un bassin suffisent à activer l'ensemble du bassin et de donner une réponse, de donner une signification. Donc, quelques éléments nous suffisent pour avoir le tout. Donc, à partir de quelques éléments saillants, nous fabriquons le tout. Et la même chose ici, en l'occurrence, c'est un réseau tactile ou un réseau visuel. Donc une claque à l'occasion d'un tel me donne une claque. Si ça recommence plusieurs fois, je fabrique des renforcements, de renforcements de schéma. Et si je vois ce quelqu'un, je pense à la claque. Donc tout ça est classique, est connu, mais c'est ce système de renforcement. Alors en fait, je vous ai parlé donc de là du traitement analogique. Or, bien entendu, ce traitement analogique, c'est un traitement auquel nous n'avons pas accès, c'est un traitement qui va vite et qui nous empêche de savoir exactement ou de contrôler, comme disait tout à l'heure cette dame. Donc, en fait, concrètement, et là c'est un schéma un peu plus neurobiologique, mais vous avez un cerveau avec ici c'est la partie visuelle et ici c'est la partie, le cortex préfrontal. Ici, pour reproduire ce traitement purement analogique, il suffit de faire des masques, c'est-à-dire de faire un peu ce que j'ai fait avec la grenouille, c'est-à-dire de faire passer très vite une image et de regarder ce qui se passe. Et quand on regarde ce qui se passe avec cette image, eh bien, on voit que l'image ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle elle rentre dans le cerveau, mais elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce qu'elle n'est pas prise en charge. Il faut plus de temps pour que le phénomène soit pris en charge. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez une situation où la présentation de l'image a duré plus longtemps et l'image, à ce moment-là, est prise en charge et elle va aller vers l'avant du cerveau et permettre le traitement cognitif. Et se permettre de traitement cognitif qui, donc, permet d'avoir accès à l'image. Donc, nous voyons des images de façon continue. Nous en voyons 10 par seconde, peut-être plus, mais nous ne traitons pas de façon cognitive toutes les images. Nous ne traitons qu'un certain nombre d'images en fonction de notre désir, de nos motivations et d'une situation éventuellement, d'une image qui nous surprend. S'il y a un éléphant qui rentre, on va tous la traiter. Mais bon, ça dépend du sens que l'on donne à l'image. Et dans la plupart des cas, on laisse tomber l'image, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne rentre pas dans le cerveau et qu'elle n'est pas traitée. Mais elle ne sera pas traitée de façon cognitive, en l'occurrence. Alors, voyons le traitement cognitif. De façon à aller doucement vers le rêve, parce que c'est quand même vers ça qu'on essaye d'aller. Je vérifie que je ne suis pas trop long. Donc, on a ici vous avez donc un cerveau avec l'avant ici, et vous voyez ce que représentent ces modulateurs. Ils sont rassemblés dans une zone très profonde du système nerveux central, dans le mésencéphale, et ces axones vont vers l'avant et vont en fait activer un certain nombre de structures, dont le cortex préfrontal, ce cortex préfrontal dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est l'élément fondamental qui va nous permettre de passer en cognitif, c'est-à-dire de retenir l'information. Alors on le voit, alors il va arriver normalement, ça c'est déjà arrivé cette histoire, voilà. Et on voit que, en fait, ce cortex préfrontal, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un inventaire de tout ce qui s'est passé avant, un inventaire de ce qu'il faut faire pour réaliser la tâche, et il élimine les interférences, les bruits qu'il peut y avoir, les lumières qui peuvent être gênantes, de façon à permettre le traitement cognitif. Et pour obtenir tout ça, il faut qu'il y ait une persistance de l'information. Il faut que l'information qui normalement fonctionne par fraction de 100 millisecondes, eh bien, elle soit retenue, elle soit sortie du contexte, elle soit maintenue en mémoire pendant des temps de l'ordre de 500 millisecondes. Et à partir du moment où ce temps a été accepté, a été atteint, alors là, je peux faire du traitement cognitif. Je vous donne un exemple avec ces quatre bouteilles d'eau. Elles sont là depuis le début du moment où j'ai commencé à parler. Je les ai vues un nombre de fois incalculable depuis que je vous parle, mais c'est seulement maintenant, parce que j'ai fait un traitement cognitif, que je vois qu'il y a quatre bouteilles, parce que j'ai demandé à mon système nerveux central de regarder ce qu'il y avait sur cette table. J'ai donc fait un traitement cognitif, je suis passé d'un autre côté. Un autre exemple, pour bien comprendre à quel point cette oscillation est importante, c'est la relation entre ces deux traitements et la motivation. Je suppose, je vous annonce maintenant que demain, vous aurez une récompense extraordinaire si vous êtes capable de me dire combien de personnes il y a dans cette salle aujourd'hui. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, demain, je vous dis que je vais vous donner une extraordinaire récompense si vous êtes capable de me dire combien de gens il y avait dans cette salle hier, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc j'ai deux situations différentes. La première situation, je vous ai dit maintenant que je vous donnerai la récompense demain si vous êtes capable de le faire. Ce que vous allez faire, c'est que, si vous voulez vraiment la récompense, c'est que vous allez maintenant compter les gens qui sont dans cette salle, vous allez faire un traitement cognitif. Et ce résultat que vous allez trouver, qui sera 153, eh bien ce résultat 153, vous allez le renvoyer en analogique. Et vous allez le conserver en analogique jusqu'à demain. Et demain, quand je vous poserai la question, vous allez reprendre votre mémoire analogique de 153 et vous allez me dire ça fait 153 et vous aurez la récompense. Si maintenant on est demain, eh bien, et que je vous dis combien étions-nous hier, alors à part les organisateurs et les obsessionnels, personne n'avait compté. Personne n'avait compté le nombre d'individus qui se trouvaient dans cette salle. En revanche, vous avez un mémoire analogique des nombres de gens. Vous avez une idée du nombre de rangs qu'il pouvait y avoir et du nombre de personnes par rang. Et les gens vont me répondre, certains 149, d'autres 153, d'autres 172, d'autres 185. Mais donc il va y avoir grossièrement une valeur qui sera probablement fausse, mais qui ne sera pas délirante. Donc vous avez d'une part un traitement cognitif qui va donner de l'analogique, et dans les deux cas on arrive à l'analogique, d'autre part, deuxième cas, une analogique qui va donner du cognitif. Et ces deux types de traitements sont importants puisqu'on y est confronté en permanence en fonction de nos choix personnels, enfin, et éventuellement de notre inconscient, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser malgré tout. Donc on a bien cette idée à la fois d'erreur et cette idée de valeur, qui peut être dans certains cas assez précis. Alors, je vous montre comment on a pu mettre en évidence ce genre de choses. Eh bien, ici, c'est ce qu'on appelle l'alternance différée. C'est qu'on prend un singe à qui on montre une récompense, donc comme tout à l'heure, une récompense. On lui montre la récompense et on fait descendre un rideau ici, de façon à ce que le singe ne sache plus où se trouve la récompense. Puis on remonte le rideau et on obtient ici le singe qui va trouver, s'il a activé son système de façon correcte, sa mémoire de travail de façon correcte pendant ce délai, il va retrouver la récompense. Et puis après, on inverse, on met la récompense de ce côté-là et on lui refait le délai. Et puis il doit avoir compris qu'il y avait une modification, une alternance. Alors en fait, on s'aperçoit que si on lui détruit ses modulateurs, ce singe n'est plus capable de faire cette alternance. Si on détruit un certain nombre de modulateurs dans le cortex préfrontal. En l'occurrence, c'est la dopamine du cortex préfrontal. Si on lui détruit ça, eh bien, il n'est plus capable de faire cette alternance. Et cette alternance, le singe normal, eh bien, il ne peut pas dépasser 17 secondes. Le singe normal fait 17 secondes, c'est-à-dire qu'il accepte, il se souvient encore si on lui baisse le rideau pendant 17 secondes, si on lui baisse 22 secondes, il se trompe. Si on lui laisse 14 secondes, il trouve le résultat et il alterne sans aucun problème. C'est ça le traitement cognitif, c'est le traitement qui permet de maintenir en mémoire un certain événement sans être au contact. Évidemment que ces quatre bouteilles, tant que je les vois là, je les vois en cognitif, il n'y a aucun problème. Si je me retourne pour reconstituer les quatre bouteilles, là, je suis obligé d'aller chercher dans ma mémoire que j'ai remise en analogique, puisqu'on ne peut pas traiter en cognitif. On n'a pas de mémoire en cognitif. Toute la mémoire que nous avons, c'est la mémoire qui est en analogique et que l'on reprend en cognitif pour pouvoir l'exprimer. On va arriver au rêve, ne vous inquiétez pas. Bien, alors... Concrètement, et maintenant, on arrive maintenant dans le rêve, parce qu'on va pouvoir effectivement voir à quoi ça correspond. Eh bien, donc, vous avez des entrées sensorielles qui vont stimuler ce qu'on appelle un essaim de neurones, et on va stimuler un stock analogique. Et ce stock analogique, il va entraîner un traitement analogique qui va très vite, auquel on n'a pas accès, et que l'on fait en continu. Notre cerveau ne s'arrête jamais, y compris pendant le sommeil, pour faire ce traitement analogique. Et puis, en fonction des situations, il va pouvoir y avoir activation, entre autres, des modulateurs, traitement cortical, qui va retenir l'information, qui va la maintenir en mémoire pendant un certain temps et qui va nous permettre d'aller chercher à différents niveaux le sens et trouver un sens et surtout une solution à ce que nous sommes en train de vivre. Une solution, c'est pas forcément compliqué, mais une solution. J'ai soif, je vais chercher à boire. Peut-être qu'il faut que je sache où se trouve l'eau. Et donc, je vais faire un traitement cognitif qui va me permettre effectivement d'avoir une sortie cognitive. Et cette sortie cognitive va m'autoriser à faire ce que je cherchais à faire. Mais on peut aussi aller chercher de l'eau de façon analogique si on est chez soi et qu'on sait très bien où est l'eau. On ne fait pas un traitement cognitif à tous les coups. Ce qui est important, c'est que ce traitement cognitif ici, il va modifier... Il va être renvoyé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en analogique, et il va donc modifier nos bassins attracteurs. Si bien qu'au cours de notre développement, alors que nous avons démarré en tant que bébé, avec des modulateurs qui existent, mais qui ne sont pas encore fonctionnels, et où 99% du traitement, voire même 100% du traitement, est analogique chez le bébé, progressivement, au cours de son développement, apparaît le traitement cognitif. Et au fur et à mesure du développement, eh bien, les bassins analogiques, les bassins d'attracteurs analogiques, vont se modifier pour donner naissance à des bassins analogiques matinés de cognitif, c'est-à-dire certains sont passés par le cognitif. Tout à l'heure, les 153, c'était un bassin analogique, mais qui était passé par le cognitif. Donc il est facile, relativement facile, de retrouver des éléments qui sont passés par le cognitif, de retrouver dans une mémoire analogique des éléments qui sont passés par le cognitif, parce qu'ils ont été traités de telle façon que le cognitif peut les exprimer, il est beaucoup plus difficile de retrouver en cognitif des éléments qui ne sont jamais passés par le cognitif. Et nous avons évidemment, surtout pendant les premières années, des éléments qui sont uniquement analogiques. En l'occurrence, les psys l'ont remarqué, et d'autres avant ou après, c'est qu'il existe une mémoire chez l'enfant, mais pourtant il existe une amnésie infantile. Donc cette amnésie infantile, eh bien, ça correspond non pas à l'absence de mémoire, mais à l'absence de passage par le cognitif. C'est-à-dire que nous avons tous appris à marcher, nous avons tous revu plusieurs fois notre landau ou peu importe notre chambre d'enfant. Il n'empêche que si on ne l'a pas revu après 2 ans, il est très difficile de la retrouver parce que tous les souvenirs que nous avons par rapport à cette période sont analogiques et il est difficile de les faire repasser en cognitif. Alors maintenant, on fait du rêve. On est presque arrivé au bout de notre peine. On fait du rêve, c'est-à-dire qu'en fait, je vous l'ai dit, lorsque l'on s'endort, les modulateurs s'arrêtent. Les modulateurs s'arrêtent, ça veut dire que nous nous trouvons en analogique. Donc nous n'avons plus accès à tout ce qui est en train de se passer pendant notre sommeil. Et il ne paraît pas possible, pendant cette période où nous ne sommes qu'en analogique, d'avoir le moindre souvenir conscient ou d'avoir le moindre élément conscient. Il se trouve que, et ça c'est important, mais on le sait depuis longtemps, mais on n'en avait pas vraiment tenu compte, c'est qu'un très bon dormeur qui s'endort à 10 heures du soir et qui se réveille à 8 heures du matin en vous disant « j'ai dormi comme une souche », c'est quelqu'un qui s'est réveillé au moins une dizaine de fois pendant la nuit. Il y a au moins, et ce n'est pas possible autrement, au moins une dizaine de micro-éveils chez tous les dormeurs humains, et s'ils sont indispensables, sinon il y aurait des problèmes neurologiques graves parce que, en fait, ces modulateurs ne peuvent pas s'arrêter longtemps. Et que se passe-t-il au moment du réveil, au moment de ces micro-éveils? Eh bien, une activation brutale des modulateurs. Si bien que ce qui était en train d'être traité par le système analogique de façon rapide, sans qu'on puisse y avoir accès, eh bien, ce qui est en train d'être traité va brutalement être transformé en cognitif à l'occasion de l'activation des modulateurs. Et là, on a combien de temps? Ben, on a quelques centaines de millisecondes. Il va falloir fabriquer un rêve en quelques centaines de millisecondes. Alors là, c'est impossible, c'est insupportable, cette idée. Je sais que c'est insupportable de penser que des rêves qui me mettent 10 minutes, il faut 10 minutes pour que je les raconte, eh bien que ces rêves ont effectivement, probablement, duré de 500 millisecondes à 2 secondes à tout casser. C'est-à-dire quand... Et bon, alors, les gens qui aiment bien les dessins animés savent qu'avec 10 images, on raconte une grande histoire. 10 images, ça fait une seconde. 10 images, ça fait une seconde pour un cerveau. Et donc, en fait, il est probable, il est... Maintenant, il y a de plus en plus d'arguments qui montrent que, effectivement, le rêve n'a pas lieu au moment du sommeil, il a lieu au moment du réveil. Du réveil à condition qu'il y ait eu sommeil avant. Donc, il est une sorte d'interface entre le sommeil et le réveil. Le réveil a lieu avant qu'on ait conscience d'être réveillé, mais entre cette période d'endormissement et cette période de réveil effectif, il y a ces deux secondes qui vont permettre de fabriquer quelque chose que nous appelons des rêves. Alors ces rêves, ils sont évidemment issus du traitement analogique, et s'ils sont issus du traitement analogique, ils sont issus de nous, et ils sont issus de la façon dont nous avons traité, dont nous traitons l'information, et surtout dont nous l'avons catégorisée. Ils sont issus des émotions que nous avons eues, ils sont issus des émotions que nous avons eues de façon analogique, c'était pas forcément consciente, évidemment. Il peut y avoir du conscient dans le rêve, enfin des éléments qui sont passés par le cognitif, mais pas forcément. Donc on va reconstruire sans censure, puisqu'on a 100 millisecondes, on a 500 millisecondes, il n'est pas question de commencer à faire un travail un peu complexe, secondaire, par rapport à ce système. Mais disons que ce que l'on va reconstruire, ou ce que l'on va construire à partir du rêve, a évidemment un sens par rapport à notre histoire, et par rapport à notre histoire non seulement des jours qui ont précédé, mais de toute notre histoire, puisque les bassins attracteurs, ils ont commencé à se mettre en place dès la naissance, et je vous dis, et même peut-être avant. Alors, je vais terminer avec une diapositive. Celle-là, c'était pour montrer l'activation des modulateurs. Donc, cette activation des modulateurs qui a lieu à la période du micro-éveil. Et donc, je vais essayer de me résumer et puis je vous poserai une petite question pour terminer. Le premier point, donc, on est d'accord, disons, je l'ai dit. Vous pourrez discuter. Il est déclenché par un réveil ou un micro-éveil. Alors, pourquoi est-ce que on peut dire que c'est vraisemblable? C'est que si je reprends l'expérience de Michel Jouvet du début, Michel Jouvet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réveillé un patient qui était en train d'être en sommeil paradoxal. Eh bien, il n'a pas interrompu un rêve, il a déclenché le rêve. Il l'a réveillé, c'est-à-dire qu'il a activé ses modulateurs de façon artificielle, en le réveillant, en le secouant. Et là, le réveil a lieu, le modulateur repart, et le patient raconte un rêve. Ça, c'est le premier exemple. L'autre exemple de Michel Jouvet, c'est quand il faisait cette lésion chez le chat et que le chat se mettait à courir en sommeil paradoxal. En fait, lui, quand il voit un chat qui court, il pense que le chat rêve, mais rien ne prouve qu'il rêve. En fait, je vous rappelle qu'en sommeil paradoxal, il y a paralysie, précisément pour qu'on ne puisse pas bouger. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau moteur? Eh bien, en fait, c'est une réactivation des bassins attracteurs. Donc, ce qu'il voit ce que l'on voit quand le chat est en train de courir, c'est l'activation analogique de son cortex moteur. C'est-à-dire qu'il il recycle, il refait tourner son activité motrice et réapprend, il stabilise son activité motrice. Je pense que certains d'entre vous connaissent l'histoire de cet enfant qui est tombé dans un lac à Chicago et qui est resté pendant 14 minutes à 4 degrés, qui a effacé ses mémoires et qui a perdu la possibilité de marcher, non pas de marcher en tant que tel physiquement, mais de marcher psychiquement. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il réapprenne à marcher. À 4 ans, il a dû réapprendre à marcher. Nous savons marcher, mais nous stabilisons nos connaissances par rapport à la marche toutes les nuits. Nous faisons un travail de stabilisation pour maintenir nos apprentissages et pour faire évoluer éventuellement nos apprentissages en fonction de notre expérience de la veille, ce qui ne signifie pas le jour précédent, mais la veille au moment où nous sommes éveillés. Ça, c'est le premier point. Donc, ce micro-éveil et se forme pendant un temps court. Et là, je pense que nous pourrons discuter sur ce point parce que ça énerve beaucoup les gens d'imaginer que leurs rêves, qui sont tellement riches et tellement extraordinaires, en peuvent avoir lieu en quelques secondes. C'est insupportable. Bon, d'accord. Alors, c'est pas forcément la condensation, parce que justement, c'est le contraire de la condensation, on y reviendra. Il est l'expression d'un ralentissement brutal, donc ça, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, un ralentissement brutal du traitement de l'information à l'occasion donc de l'activation de ces modulateurs. On va passer de l'analogique au cognitif, ok. Il reconstitue la façon dont le cerveau du rêveur a stocké et catégoriser les perceptions. Donc il va transformer de l'analogique en train d'être stabilisé, donc important, puisqu'il est en train d'être stabilisé au cours du sommeil paradoxal, il est important. Donc ça va donner naissance à quelque chose qui va avoir un sens, mais indiscutablement. Donc là, les psychanalystes peuvent être tranquilles par rapport à ça. Il y a un sens, le rêve ne vient pas de là-haut, de n'importe quoi. Il est évidemment en lien avec l'histoire et, en gros, évidemment avec les émotions, dans la mesure où tous les bassins attracteurs ne peuvent exister que si dans leurs paramètres, il y a de l'émotion, il y a de l'affect. Et puis, il est rétrograde. Alors, il est rétrograde. Alors ça, en fait, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a un nombre d'histoires qui le montrent de façon claire. Moi, j'en ai une personnelle, c'est qu'à 8 ans, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai commencé à me poser des questions là-dessus, à 8 ans, j'étais au Louveteau avec des autres louveteaux et je me suis réveillé et mon voisin avait un appareil photo avec flash. Donc vous imaginez que c'était quand même assez tentant et donc je lui ai pris son appareil photo avec flash et puis je me suis dit je vais lui faire une blague, je vais le photographier. Donc il est 8 heures du matin et je photographie mon voisin louveteau avec le flash. Il se réveille, ça j'avais pas du tout imaginé que j'allais le réveiller, je pensais qu'il reste. Il se réveille, il me dit « Ah, c'est incroyable ce qui vient de m'arriver, j'étais dans une chambre noire, je cherchais la lumière, et au moment où je trouve la lumière, toc, j'ai été réveillé par le flash. » Alors ça m'a travaillé, je me suis dit « C'est incroyable comme coïncidence qu'il ait rêvé ça au moment même où je le prenais en flash. » Bon. Vous avez tous compris que c'est le flash qui l'a réveillé et qu'il a fabriqué un rêve de façon rétrograde et ce rêve se termine par ce qu'il a réveillé. Alors maintenant, vous allez analyser vos rêves et vous verrez que vous aussi, les rêves, eh bien, quand vous vous réveillez, c'est en fait le dernier élément qui est souvent déclenchant. Si quelqu'un vous réveille à côté en vous envoyant une lumière ou autre chose, eh bien, vous allez intégrer cet élément dans votre rêve et le rêve va avoir lieu de façon rétrograde. Et là, je ne sais pas si c'est un symbole, mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est caché par les fauteuils. J'avais mis le rêve peut être considéré comme le gardien du sommeil, entre parenthèses Freud, c'était pour vous faire plaisir à tout le monde, mais pas uniquement, c'est parce que effectivement, cette situation est extrêmement douloureuse pour le système nerveux central. Il est en traitement analogique, il est en train de faire son petit boulot, et brutalement, il faut absolument que les modulateurs se réactivent. On n'a pas besoin d'avoir un bruit, hein, ça se fait de façon physiologique, normale. Et il va brutalement se trouver en cognitif, donc normalement, il va se réveiller. Et pour éviter ce réveil, pour pouvoir se rendormir, il va y avoir fabrication de rêves. Alors tout le monde ne rêve pas, vous allez me dire, effectivement, pour que le rêve puisse être mémorisé, il faut que le rendormissement n'ait pas lieu trop vite. Il faut qu'il dure quelques secondes après le micro-éveil. Donc il faut que le micro-éveil dure suffisamment longtemps, c'est-à-dire un peu plus de 1 ou 2 secondes. Donc vous allez me dire, ben oui, il y a des gens qui ne rêvent pas. Eh bien, ceux qui ne rêvent pas, effectivement, sont des gens qui se rendorment tellement vite après le micro-éveil qu'ils se réveillent en disant, voilà, j'ai pas une, je n'ai pas à me réveiller. Bon, j'arrête parce que je sais que monsieur Tisseron m'a dit qu'il fallait surtout pas que je sois trop long. J'ai déjà été trop long. Et je termine en vous posant une question, histoire de rire un peu. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en rêve? Et en fait, c'est à partir de la réponse de cette question qu'on peut refabriquer toute l'histoire. Je vous remercie. Qu'est-ce que personne n'arrive à faire en rêve? Voilà. À bientôt pour les questions. Ah non, mais maintenant, tout de suite. Alors, non, non, bah bon, alors je vous donne la réponse. Mais personne n'a d'idée? Non? Non? Eh ben non. Et c'est quelque chose que vous faites tous les jours, sans arrêt? Non? Non? Eh non, mais ça, justement, on le fait. Pardon? Hein? Ce que vous ne pouvez pas faire en rêve, c'est lire. Vous pouvez voir, attention, vous faites de l'analogique. Vous pouvez faire, et si vous êtes très fort, vous pouvez voir, attention, il est dangereux. Mais vous ne pouvez pas faire, attention, il est dangereux de se pencher à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que précisément, le rêve, c'est donc le ralentissement de ce traitement analogique. Vous allez dans un sens, vous faites analogique, cognitif. Mais une fois que vous êtes arrivé au cognitif, vous n'avez plus le droit de repartir puisque vous êtes réveillé. Donc vous n'allez plus retourner. Donc pour la lecture, vous êtes obligé de faire il est, ou attention, ça vous pouvez le faire. Ça c'est la triméthylamine de Freud, par exemple. Un dessin, oui, ça on peut le faire. C'est de l'analogique en cognitif, ok. Mais s'il faut repartir sur le texte, vous ne pouvez plus. Alors vous essayerez chez vous, vous prendrez, vous endormirez. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé depuis que je leur ai raconté ça. Vous voyez les lignes du livre en rêve, et vous vous approchez pour lire, et à ce moment-là, vous vous réveillez. Oh, man.
Merci beaucoup, Jean-Paul Tassin. Alors, moi, chaque fois que j'entends Jean-Paul Tassin, j'ai de nouvelles questions qui viennent. Alors, je ne vais pas toutes les lui poser maintenant. D'abord, merci pour cette leçon de neurobiologie. Hein, et puis, on peut dire aussi pour une certaine leçon de pédagogie. Parce que c'est vrai que c'est des choses drôlement compliquées et que vous arrivez à nous simplifier remarquablement. On se sent presque intelligent. Vous écoutez, des fois, on se sent complètement idiot, mais une autre fois, très intelligent. Mais alors, je trouve aussi que c'est très intéressant parce que d'avoir débuté comme ça sur ce qui est sur les travaux de Jouvet. Moi, j'ai été à l'université à Lyon à l'époque de la splendeur de Jouvet et ces travaux nous étaient présentés comme des vérités scientifiques indépassables. Je trouve que c'est formidable de commencer un exposé en disant voilà ce qu'on pensait il y a 20 ans et voilà comment on pense maintenant et ça a changé. Et je pense que dans notre propre discipline, hein, les sciences humaines et la psychanalyse en particulier, ça serait bien qu'on arrive des fois à faire ce retour et de dire voilà ce qu'on pensait il y a 10 ans ou il y a 20 ans et voilà ce qu'on pense maintenant et ça a changé. Effectivement, il y avait de bonnes raisons pour que ça change. Alors, moi, j'ai beaucoup de questions. Je vais me limiter à deux hein, qui sont centrées sur ce que vous avez dit. La première, c'est traitement analogique, traitement cognitif. Parce qu'évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au processus primaire et au processus secondaire de Freud. D'autant plus que les processus primaires chez Freud, il faut intervenir les images, que les images, c'est de l'analogique. Donc voilà, c'est ma première question. Et puis, la deuxième tourne autour des images subliminales. Parce que régulièrement, on voit dans la presse des alertes sur les dangers que nous soyons manipulés par des images subliminales. Et dans ce que vous avez dit, j'ai cru comprendre que, en fait, si elles passent, qu'elles ne peuvent vraiment être traitées par l'ensemble du cerveau que si elles rejoignent nos préoccupations. Donc, je voulais avoir votre sentiment sur le fait que des images subliminales, c'est-à-dire que nous ne percevons pas avec notre système cognitif, hein, puisse éventuellement influencer nos comportements, c'est-à-dire nos actions, notamment nos actions d'achat ou même éventuellement des actions de dépôt de bulletin de vote dans une urne. Voilà les questions qui viennent. Voilà.
Écoutez, bon, en ce qui concerne le processus primaire et le processus secondaire, j'ai envie de dire c'est votre problème, parce que c'est vrai, non, mais je le pense sérieusement. C'est-à-dire que c'est effectivement un problème de psychanalyse, mais je suis d'accord avec cette notion, c'est qu'il y a évidemment dans le traitement cognitif un aspect élément secondaire. traitement secondaire. Et puis, enfin, et alors l'autre question, ben, pour le subliminal, vous avez dit à condition que ça soit en lien avec nos préoccupations. Et là, il y a une notion un peu différente, c'est-à-dire que le traitement subliminal, s'il est activé pendant un temps suffisamment court, même s'il est en lien avec nos préoccupations, il ne va pas nécessairement atteindre notre cognitif. Donc, il y a non pas un vrai danger, mais la répétition d'images subliminales vraisemblablement peut avoir des conséquences. Quant à aller acheter une machine à laver parce que vous l'avez vu plusieurs fois, je ne suis pas sûr. Mais que le subliminal existe et qu'il ait des conséquences, c'est absolument indéniable. C'est les conséquences qu'il faudrait discuter surtout.
On a quelques instants pour quelques questions de la salle. Je pense que vous en avez beaucoup.
Ben non. Ils sont complètement en sommeil paradoxal.
Oui. Oui.
Je voulais poser une question juste. Je ne sais pas si je vais savoir la poser parce que ça suppose de reprendre ce que vous avez dit de façon suffisamment précise. Mais peut-être, je reprends à partir de 2-3 notes. Vous dites que quand il y a donc des entrées sensorielles qui viennent du thalamus, il y a un certain nombre de choses qui sont activées, un sens est donné. Alors là, voilà, j'avais une question sur un sens est donné. Est-ce que c'est donné parce que systématiquement, ça passe dans quelque chose qui va rentrer dans des aires qui traitent le cognitif? Est-ce que c'est ça le sens? C'est-à-dire c'est purement cognitif parce qu'on voit que le sens, du coup, peut être formé par aussi des aspects émotionnels. Et voilà, je me demandais si ça se transformait toujours en sens.
Alors, tout dépend de ce que vous appelez sens.
Parce que ça pose après le problème dans la psychopathologie.
Oui, oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une signification, vous avez d'abord un traitement, donc un traitement analogique qui a une signification, et le sens va venir à l'occasion des modulateurs et à l'occasion du traitement par le cortex préfrontal. C'est-à-dire que si vous avez une stimulation analogique qui correspond à quelque chose qui n'a pas de cohérence par rapport à la réalité, normalement, les modulateurs vont lui donner un sens qui sera différent. Vous voyez, votre traitement cognitif va vous permettre d'avoir un sens qui pourrait être différent par rapport à celui qui était initialement stimulé au niveau cortical. Donc c'est ce travail cortical qui nécessite les modulateurs et qui a lieu vraisemblablement dans le cortex, mais pas dans le cortex seul, c'est que ce cortex donc est capable de retenir l'information et d'aller voir dans les zones sous-corticales les éléments qui permettent d'avoir un contact avec la réalité. Si vous voulez, la conscience, c'est quand même en permanence en oscillation avec la réalité. Si vous avez une conscience qui vous met dans une situation qui n'a plus de lien avec la réalité, là vous avez la pathologie. Donc ce que fait le cortex, c'est vous mettre en lien avec la réalité par ce traitement conscience, donc ce sens. C'est un peu compliqué, je reconnais. Hein. Mais on peut revenir dessus.
Ça pose la question des distorsions qui peuvent se produire sur le trajet.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
Je voudrais savoir si on a observé les rêves chez les bébés et si, en effet, au fur et à mesure de l'évolution, il y a quelque chose qui se transforme ou c'est d'emblée présent dans ce fonctionnement-là.
Alors, chez les bébés, c'est discuté, bien sûr. Certains disent que ce sont des rêves. Ce que l'on voit, c'est des mouvements de visage. C'est qu'on voit ce qu'on appelle un sommeil agité. À mon avis, le bébé ne rêve pas. Un peu comme le chat dont on parlait, il a des mouvements, il a des mimiques, il sourit, on dit « Ah, il est content, il est en train de rêver ». Non, ben non, il rêve pas. Parce que pour rêver, encore une fois, pour rêver, il faut passer par la conscience. On peut difficilement en sortir de ça.
Je passe à l'autre côté de l'âge par rapport à la question précédente, parce que moi je travaille avec des patients Alzheimer, qui sont des fois au dernier degré de la maladie, donc on passe vraiment que par le sensoriel pour arriver un peu à communiquer avec eux. Il n'y a plus les mots, il n'y a plus la reconnaissance d'objets, etc. Est-ce que vous diriez qu'au moment du rêve, puisque c'est un peu une déconstruction des apprentissages, est-ce qu'ils peuvent rêver de façon claire, avec des mots? Est-ce qu'on peut imaginer ça?
Alors, bon, dans le cas de l'Alzheimer, ce qui est compliqué, c'est que l'Alzheimer n'est pas Alzheimer tout le temps, d'une certaine façon. Il a des moments de vigilance, il a des moments de... Et donc, selon qu'il se trouve dans telle ou telle période par rapport à ce type de traitement. Je pense qu'il peut avoir des rêves, mais un Alzheimer très avancé, normalement, ne rêve plus. C'est-à-dire qu'il n'a plus de traitement conscient. Il a toujours le passage, mais le passage ne peut plus tenir. Il n'a plus de cohérence cognitive qui lui permet de raconter une histoire. Oui. Mais compliqué, hein.
Oui, vous avez parlé de la représentation, si j'ai bien compris, dans l'après-coup. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'émotion, c'est-à-dire des rêves angoissants, des rêves érotiques?
Voilà, très bien. C'est une super question, donc je réponds rapidement, parce qu'elle me plaît beaucoup, évidemment. Mais c'est qu'en fait, sommeil paradoxal, entre autres, mais sommeil lent aussi, perte de la régulation du système neurovégétatif. Et ce que vous constatez, c'est qu'il peut y avoir chez certaines personnes, et en particulier d'ailleurs à l'occasion de prise de certains médicaments, c'est comme ça qu'on peut s'en rendre compte, il peut y avoir des accélérations cardiaques très importantes, des transpirations, et que ces transpirations, ces accélérations cardiaques sont traduites par le système nerveux central comme une situation angoissante. Donc le réveil qui va être dû à l'apnée du sommeil éventuellement, ou à l'accélération cardiaque ou la transpiration, le réveil va avoir une connotation de danger. Donc ce qui va être fabriqué en cognitif, c'est une aventure qui est en lien avec le danger. Maintenant, en ce qui concerne le rêve érotique, pour les femmes, c'est difficile, mais pour les hommes, il est clair qu'une érection qui va avoir justement lieu pendant le sommeil paradoxal va pouvoir donner naissance un rêve érotique. Et en général, on se réveille juste avant. Merde. Et c'était chez l'homme. Bon.
Donc c'est pas le rêve qui donne l'érection, c'est l'érection qui donne
exactement
le rêve.
Exactement. Alors ça c'est clair. Non mais ça c'est là où on en arrive. C'est bon. Alors en plus l'érection est un phénomène physiologique du sommeil paradoxal. Donc ça tombe bien si je puis dire.
Oui. Juste une petite question. Vous avez parlé du traitement cognitif comme étant la conséquence du rêve. Je voulais vous demander quelle importance vous accordez au récit du rêve. Et à partir du moment où on le raconte, comment au niveau cognitif il va transformer le rêve?
Oui, alors c'est une très bonne question à laquelle je ne vais pas répondre ici parce que ça serait beaucoup trop long, mais effectivement, il y a plusieurs niveaux après la fabrication du rêve, c'est-à-dire entre le rêve que l'on accroche au moment où on se réveille, et celui qu'on va raconter à la fois pour le rendre cohérent, on va lui faire subir un certain nombre de raboutages de façon à ce qu'il tienne, et qu'il puisse être racontable. Et là, c'est tout un autre travail avec probablement des phénomènes de censure et puis d'autres mécanismes. Moi, et puis là, c'est de l'ordre vraiment du psychanalyste. Mais moi, j'en étais juste simplement au moment de l'accrochage du rêve. Mais évidemment qu'il y a d'autres choses qui se passent au moment où on le raconte.
Oui, alors moi j'aurais deux questions en fait. Une qui concerne la technique EMDR, puisqu'il se dit qu'il y a un retraitement de l'information justement par le rêve, qui peut faire en sorte qu'il y ait une élaboration du coup des traumatismes. Donc voilà, d'une part, donc votre avis là-dessus. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe pour les gens qui parlent en dormant aussi?
Oui, alors la première question par rapport à ça, je crois que je vais essayer de ne pas répondre, parce que il est évident que le rêve va intervenir sur la façon dont vous allez traiter l'information après. Même si vous vous réveillez avec un rêve sympathique, votre journée va être différente. Hein? Donc il y a bon, mais il faudra aller dans le détail pour voir comment le rêve va modifier. Enfin, le rêve intervient évidemment sur lui-même, enfin sur l'individu. Alors l'autre question, c'était, c'est pas facile. Oui, alors les gens qui parlent en dormant, en fait, ils sont vraisemblablement dans une situation de sommeil lent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils expriment le traitement analogique qu'ils sont en train d'avoir lieu. Sauf s'ils sont en micro-éveil. Ça dépend. Mais ils peuvent ne pas être en micro-éveil. Et à ce moment-là, ils sont dans une période de sommeil. Le somnambule, par exemple, qui est en sommeil lent. Il est en sommeil lent et il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir faire un certain nombre de choses. Il n'en aura pas il n'aura pas de mémoire de ce qu'il a fait, mais il est en train de faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire, qui est rentré dans ses habitus. Donc au même titre que si vous appelez votre maîtresse pendant le sommeil, c'est rentré dans vos habitudes. C'est-à-dire que ce mot est un mot important dans votre émotion. Au niveau de votre émotion, il va sortir comme ça.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le rapport entre la rêverie et le rêve ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est que bon, ce que je peux vous dire, c'est par rapport au rêve lucide, c'est-à-dire ce qui se passe chez certaines personnes, c'est qu'elles sont capables de maintenir leur réveil pendant le réveil sans être totalement éveillé pendant un temps suffisamment long pour qu'il y ait pour que le rêve puisse être plus ou moins contrôlé. Dans le cas de la rêverie, vous êtes un peu dans la même situation, c'est-à-dire que il y a vous êtes en cognitif, de toute façon claire, vous êtes en cognitif, mais vous laissez venir l'analogique de façon moins censurée. Quand vous êtes dans la rêverie, c'est-à-dire, il faut bien voir que ces deux modes de fonctionnement sont en oscillation, avec des rythmes qui sont différents. Donc, certaines personnes ont des traitements analogiques qui sont beaucoup plus forts que leur traitement cognitif, ou le contraire. Donc, ce que fait le rêveur, c'est qu'il laisse son traitement analogique rentrer plus facilement et il le reprend en cognitif. Mais c'est juste son équilibre qui a changé. En gros, pour avoir une rêverie, il faut faire diminuer ses entrées sensorielles. Ce que font les entrées sensorielles, c'est qu'elles nous poussent vers le cognitif. Elles nous obligent à vérifier ce que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on nous rêvons en fermant les yeux, nous avons moins d'entrées sensorielles et par conséquent, nous pouvons aller vers la rêverie, comme vous dites. Mais on n'est pas en train de dormir.
Bien, l'heure tourne. Bien que ce soit passionnant, on va prendre une dernière question. Puis peut-être après, monsieur le maire, si vous voulez dire quelques mots. Mais d'abord, question.
Dernière question autour de la grossesse. Est-ce qu'il y a eu des études de fait par rapport à la question d'activité onirique de la femme enceinte ? Si sur un plan neurobiologique, il y a quelque chose qui peut répondre à ça ?
Non, alors j'ai aucune idée. Enfin, je pense qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait dire, mais je ne pourrais pas dire à partir d'études, puisque je ne les connais pas, si elles existent.
Je crains qu'il ne faille donc nous arrêter avec une dernière quelques remarques simplement. Le mot conscience est venu et nous nous préoccupons beaucoup des niveaux de conscience qu'est-ce que c'est tout à fait que la conscience claire, celle qui amène à des réflexions, etc. Et puis certains états de conscience qui nous paraissent à nous un peu intermédiaires. Et ça, peut-être, c'est difficile d'y répondre, mais enfin, je crois que c'est une question qui nous préoccupe. Ça rejoint d'ailleurs deux ou trois interventions qui m'a semblé entendre, en particulier celle qui concerne la notion de sens, qui est une élaboration et qui suppose un certain degré de conscience, je crois. Alors ça concerne peut-être aussi le problème des activités oniriques, qui est notre sujet de travail aujourd'hui, et je pense aussi peut-être des états intermédiaires comme ceux que vous venez d'aborder, c'est-à-dire qui ne sont pas tout à fait dans le rêve et que vous commenciez à y aborder.
D'accord. Alors, je réponds très vite à cette question. C'est qu'effectivement, il y a différents niveaux de conscience et que ces différents niveaux de conscience, c'est selon toute vraisemblance parce qu'ils ne recrutent pas de la même façon les modulateurs. Et l'exemple des produits qui modifient la conscience, ce sont tous amphétamine, cocaïne, morphine, héroïne, tabac, alcool, ce sont tous des produits qui agissent sur les modulateurs, qui modifient le fonctionnement des modulateurs et qui, en cela, modifient l'état de conscience. Donc, entre la morphine qui nous met dans une situation de sédation et entre l'amphétamine qui nous met dans une situation d'hyperfocalisation, c'est tout simplement, si je puis dire, parce que l'un active la noradrénaline. Oh ! Vous voyez ? Ça, c'est la noradrénaline. Ça, c'est la noradrénaline qui est chargée de traiter l'information extérieure. Vous avez tous réagi parce que votre locus ceruleus a été activé par ce changement de degré. Et en revanche, d'autres neuromodulateurs, comme la sérotonine, interviennent par rapport à la morphine et vont créer une sédation. Donc ces modifications d'état de conscience, c'est une modification d'état d'équilibre entre les trois grands modulateurs.
Je crois qu'on peut vous remercier beaucoup de nous avoir donné cet éclairage.
Voilà, alors si la prochaine nuit, dès que vous vous réveillez, vous pensez à Jean-Paul Tassin, ne vous étonnez pas, il y en aura probablement d'autres à qui ça arrivera. Oui, alors donc il y a la pause café et à l'extérieur,
à droite
en sortant, et nous reprenons à 11h. Et nous reprenons à 11h. Merci.
Je vous rappelle, bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que vous avez l'ensemble des conférences donc disponibles sur en enregistrement, donc sur CD ou en MP3. Donc je refais l'annonce en fait. Donc bonjour à toutes et à tous. En fait, pour information, en fait, il y a des enregistrements disponibles des conférences, donc au stand Congrès Minutes, à côté de l'espace librairie. Donc voilà. Merci à tous.